philosopher contre le fanatisme, c'est le travail qui s'impose à nous aujourd'hui. Mais nos ancêtres avaient aussi à le faire. Par exemple, Michel de Montaigne, acteur de son temps, il fut pris dans les tumultes de l'histoire. Il connut pas moins de 8 guerres civiles, se retrouva embastillé par la Ligue. On parle de Montaigne et de la philosophie en compagnie d'André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, vous publiez notamment « Ces choses tendres que la vie » aux éditions Albin Michel et « Le plaisir de penser », une introduction à la philosophie. Et puis en face de vous se trouve Jean-Michel Delaconté, bonjour. Vous publiez un « Adieu Montaigne » aux éditions Fayard. Notre camarade Brice Couturier est dans ce studio également. Jean-Michel Delaconté, vous n'avez pas lu Montaigne en philosophe?
Non, je ne l'ai pas lu en philosophe au sens où je ne suis pas un philosophe sur le, ni de formation d'ailleurs, ni d'habitude si j'ose dire. Institutionnellement, je ne le suis pas philosophe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'entre pas dans les lectures de Montaigne avec un œil philosophique.
Vous dites que vous l'avez lu tout d'abord suite à un chagrin d'amour, donc en tant qu'homme, en tant qu'être humain ayant ressentant de la douleur, et vous y avez trouvé un profond réconfort.
Oui, c'est-à-dire que je l'ai pris d'une certaine façon, enfin j'étais fort jeune, je crois utile de noter que à l'époque, on étudiait Montaigne au lycée, on l'étudiait réellement. C'était pas un extrait comme ça. On étudiait des chapitres. Bon. Et donc, lorsque j'ai eu ce chagrin d'amour, effectivement, une vingtaine d'années comme ça, je suis presque naturellement revenu à Montaigne. C'est-à-dire à ce que j'avais appris en classe, et ça a été une ouverture vers les essais. C'est-à-dire que je l'ai pris Montaigne finalement comme je crois qu'il faut le prendre. Enfin, en tout cas, c'est une façon de le prendre assez logique. C'est-à-dire, on part de sa propre vie. On vient pas de l'extérieur. Vous me direz à l'école, oui, bien sûr, il faut une initiation. Et puis ensuite, on part de sa propre vie pour retrouver sa propre vie par lui.
Pourquoi a-t-il des vertus consolatrices, Montaigne?
Je dirais que c'est par la façon dont il s'adresse à son lecteur. Il nous met de plein pied, pas nécessairement en accord avec lui, mais en complicité avec lui. Comme si, c'est étrange à dire, comme si les essais éprouvaient une empathie pour le lecteur.
André Comte-Sponville, mon camarade Brice Couturier, a dit de vous que vous étiez un Kantien, que vous étiez responsable, mais peut-être pas coupable, de la réintroduction de Kant en France. Est-ce par exemple qu'un Kantien ne peut pas goûter Montaigne? Ce serait étrange, puisque le titre de votre ouvrage, « Ces choses tendres que la vie », est évidemment une référence à Montaigne.
Oui, Montaigne écrit dans les essais « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Et je suis bien sûr beaucoup plus proche de Montaigne que de Kant. Je ne suis en rien kantien. Alors j'admire Kant parce que c'est l'un des plus grands philosophes de tous les temps, cela va de soi, mais je ne suis en rien kantien. Je dirais même qu'une partie essentielle de mon travail a consisté à jouer Aristote, Montaigne, Spinoza contre Platon et contre Kant. Si j'écris un petit traité des grandes vertus et non pas un traité des devoirs, c'était ma façon justement de jouer Aristote et Spinoza contre Platon et Kant. Non, non, moi je suis comme Montaigne, parce que je suis relativiste. Et je crois que le relativisme, justement, est une espèce de ligne de crête qui se bat sur deux fronts. Contre l'absolutisme, tous ceux qui prétendent qu'il existe une morale absolue, éternelle, je n'y crois aucunement. Pour moi, toute morale est relative à une certaine société, à une certaine époque, à une certaine civilisation. Mais je me bats aussi contre le nihilisme, c'est-à-dire ceux qui prétendent que tout se vaut et donc que rien ne vaut. Ni dogmatisme, ni absolutisme, ni nihilisme, c'est la ligne du relativisme, c'est la ligne de Montaigne, c'est la ligne dans laquelle je me reconnais.
Mais vous n'êtes pas relativiste, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé d'Anish Kapoor et de son œuvre d'art. Et vous m'avez dit en substance, c'est pas de l'art, vous l'avez dit plus poliment, mais c'est.
Non, je l'ai dit de mon point de vue, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas ça, mais je ne suis pas le bon Dieu, je n'ai aucun titre à décider dans l'absolu de ce qui vaut et de ce qui ne vaut pas. Et je crois que c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que certains prétendent juger dans l'absolu de la valeur de toute chose, ils se prennent pour le bon Dieu, et d'autres renoncent à juger, ils se prennent au fond pour un traité d'anthropologie comparée qui voudrait décrire et jamais juger. Je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas un traité d'anthropologie comparée, je suis un être humain, un sujet en tant que tel, j'ai besoin d'agir, donc de juger. Et donc si je méprise telle ou telle œuvre d'art contemporaine, et si j'admire telle ou telle autre œuvre d'art contemporaine, c'est toujours de mon point de vue. Dire que tout jugement de valeur est relatif, ça n'est relativisme, ça n'est pas la même chose de dire que tout se vaut et ne vaut rien, ce qui serait du nihilisme.
Brice Couturier.
Ben, je vous remercie, Guillaume Herner, d'avoir choisi le thème « Comment lutter contre le fanatisme ?» parce qu'il me semble qu'il y a deux façons, effectivement, de lutter philosophiquement contre le fanatisme. C'est soit la voie hegelienne ou celle de Léo Strauss, c'est-à-dire chercher, effectivement, comme vous l'écrivez, André Comte-Sponville, agir moralement, c'est agir de telle sorte que je puisse désirer sans contradiction que tout individu se soumette au même principe que moi. C'est un principe d'universalisme. Et l'autre façon de lutter contre le fanatisme, c'est effectivement la sagesse relativiste, celle de Montaigne, qui nous enseigne que toutes nos idées, nos croyances relèvent de la coutume. Il faut donc les respecter pour avoir la paix, mais ne pas les absolutiser. Et évidemment, Montaigne écrit à l'époque des grandes découvertes. On s'aperçoit que les Indiens ont une culture alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, et ça choque beaucoup. Et puis surtout, des guerres de religion où l'Europe est déchirée entre catholiques et protestants qui s'entrégorgent. Il y a une maxime qui me plaît beaucoup de Gombrowicz. Moi, je suis plutôt polonais que Montaigne, qui dit après la même chose que... Oui, voilà, plus polonais que bordelais. Merci beaucoup, Guillaume. Gombrowicz écrit « J'évite de me lier aux devises du jour aussitôt remplacées ». Alors pour quelqu'un qui a dépassé la cinquantaine et qui a donc vécu successivement l'existentialisme détrôné par le structuralisme, le post-structuralisme et la déconstruction, puis en plus les post-colonial studies et les gender studies, ça rend effectivement assez sceptique sur la philosophie, disons, universitaire occidentale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la philosophie garde encore un sens aujourd'hui ou que c'est juste une succession de modes intellectuels qui se contredisent les unes les autres?
Alors peut-être sur la philosophie André Comte-Sponville, puis Jean-Michel de la Comté sur Montaigne.
Vous connaissez la formule, la mode, c'est ce qui se démode. Et donc toute mode est dérisoire en philosophie comme ailleurs. Ça ne veut pas dire que les courants que vous avez évoqués, l'existentialisme, le structuralisme, ne soient pas intéressants. Il va de soi que Sartre, Foucault, Lévi-Strauss sont des auteurs très importants. Simplement, la philosophie n'est pas une science. Elle n'est pas un savoir de plus, elle est une réflexion sur les savoirs disponibles. Et c'est pourquoi je dirais que le relativisme et son horizon, si vous voulez, vous savez ce que disait Kant, là, pour le coup, on ne peut pas apprendre la philosophie, on ne peut apprendre qu'à philosopher. On ne peut pas apprendre la philosophie parce que ça n'est pas un savoir. On peut apprendre les mathématiques, la physique, la biologie, pas la philosophie. Mais en même temps, lequel entre
de nous, la philosophie et beaucoup de professeurs de philosophie sont des histoires de l'histoire de la philosophie.
D'un point de vue exclusivement scientifique. Il faut bien énoncer des jugements de valeur. Comme les sciences ne le font pas, c'est à nous de le faire. Eh bien, la philosophie aide à le faire de façon un peu plus lucide et un peu plus libre.
Jean-Michel de la Comté, dans Adieu Montaigne, vous citez un certain nombre de passages où Montaigne note la barbarie des temps, et justement, ce qui est particulièrement frappant chez Montaigne, c'est à la fois la manière dont celui-ci a cultivé, en quelque sorte, son bonheur personnel, au-delà donc de ses malheurs, de la perte de son ami La Boétie, mais aussi penser, en quelque sorte, le fanatisme de son époque.
On peut dire que la pensée du fanatisme et l'extraordinaire douleur qu'il en a éprouvée sont l'un des moteurs essentiels de l'écriture des essais. On dit toujours il a écrit les essais pour remédier en quelque sorte à la disparition de la Boétie, parce que la notion de perte, je crois, est au cœur des essais, et notamment perte de choses essentielles, perte d'une certaine notion de Dieu. C'est-à-dire, il dit bien, Dieu est, au fond, Dieu est inaccessible sur ce plan. Ça, c'est, il faut pas y mettre les doigts, en quelque sorte, dans ce genre d'affaires. Il faut pas revenir sur la lecture de la Bible. C'est pour ça qu'il est conservateur. C'est le seul moyen d'éviter les dissensions criminelles et civiles qui sont absolument ravageuses. Et ça, c'est une expérience qu'il a eue et qui est une force motrice des essais, et je pense que s'il n'y avait pas eu les guerres civiles, on peut se demander s'il y aurait eu les essais. C'est complètement lié, ça imprègne complètement sa vision des choses et son propre texte.
Il y a l'inhumanité de l'homme, Montaigne écrit notamment, après qu'on se fût apprivoisé à Rome au spectacle des meurtres des animaux, oui, on vint aux hommes et aux gladiateurs, nature a, se cringe, elle-même attachée à l'homme, quelque instinct à l'inhumanité, Jean-Michel, oui, de la Comté.
Ah ben ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Si, alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Comte-Sponville, sur le, pas d'universalisme ou d'absolutisme, comme ça, et c'est une pensée très forte chez Montaigne, parce que finalement, mais il y, y a une chose qui le frappe, lui, beaucoup, dans son rapport à la nature humaine et à la nature en général des êtres vivants, c'est précisément une cruauté qui nous est consubstantielle. Et il faut, il le dit très clairement, c'est au cœur de l'éducation des enfants, il faut impérativement lutter contre cette cruauté qui, en quelque sorte, nous taraude. D'où d'ailleurs les pages extraordinaires qui sont bien connues, hein, qu'il a écrites sur la conquête de l'Amérique, qu'il l'a foudroyé. Il écrit des pages absolument extraordinaires.
Si on a la chance de ne pas les avoir lues, que disent ces pages, Jean-Michel de la Comté?
Oh bah vous savez, c'est la conquête par Pizarro en particulier, avec le massacre des Indiens, au point même, dit-il Montaigne, au point même qu'il n'y a plus aucune trace des noms, des villes, des êtres, hein, avec les, dans Descoches en particulier, ce chapitre extraordinaire, hein, qui est absolument bouleversant.
André Comte-Sponville.
Oui, Montaigne est l'un des très rares auteurs de son temps à avoir condamné expressément les massacres de populations indiennes par les concitadors, les armées très chrétiennes et très catholiques. Ce qui montre que son relativisme n'est pas incompatible avec une forme d'universalisme. Tout être humain porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Et j'embrasse un Polonais aussi bien qu'un compatriote, disait Montaigne. Et c'est pourquoi son humanisme est tellement moderne au fond. Parce que ça n'est pas un humanisme religieux qui célébrerait perpétuellement la grandeur de l'homme. Il ne s'agit pas de croire en l'homme, comme on dit niaisement aujourd'hui. Non, c'est plutôt ce que j'appelle un humanisme de la miséricorde et de la vigilance. Il s'agit de nous pardonner mutuellement le peu que nous sommes, et d'affronter lucidement le pire parfois dont nous sommes capables. Eh bien, c'est l'humanisme aujourd'hui dont nous avons besoin. Et je crois qu'on ne peut pas lire Montaigne, alors, malgré la difficulté de la langue qui a vieilli, mais qui est le plus beau français qu'on ait jamais écrit. Montaigne est un très grand penseur, un très grand philosophe, selon moi, mais c'est aussi un écrivain de génie. On n'a jamais écrit une aussi belle langue, mais c'est difficile à lire. Mais quand on franchit cette difficulté liée au siècle qui nous en sépare, on ne peut pas ne pas être émerveillé. C'est l'esprit le plus libre, le plus lucide, et l'écriture la plus vivante et la plus spontanée qu'on ait jamais connue, en tout cas en France.
Et le lire en version modernisée?
Alors, il y a plusieurs éditions traduites, c'est toujours un petit peu décevant. On perd un petit peu de cette saveur invraisemblable. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre une édition où l'orthographe est modernisée. Parce que l'orthographe, c'est déjà une difficulté en soi. L'orthographe modernisée, oui. La traduction, ça me paraît dommage. Il faut se plonger dans les essais. Je conseille toujours de commencer plus tôt par le livre 3, qui est le plus beau, alors que les premiers essais du livre 1 sont un petit peu décevants. Et puis prendre le temps de s'acclimater à cette langue. Une fois qu'on a appris les 100 ou 200 mots typiquement montagnens ou typiquement du XVIe siècle, et qu'on fait preuve d'attention, c'est une lecture qui est difficile, qui est exigeante, mais c'est une aventure intellectuelle et littéraire telle que ça vaut la peine de faire quelques efforts.
Jean-Michel de la Comté.
Je ne dirai qu'un mot, je suis absolument d'accord. C'est tout à fait vrai. Dans les éditions modernisées, on va même jusqu'à parler parfois de traduction, c'est fou quand même. Il n'y a pas de traduction à faire, c'est absurde. Mais effectivement, il faut prendre. Il y en a qui sont excellentes. Simplement, l'orthographe est modernisée, la ponctuation aussi. Une simple remarque. On considère que Montaigne, c'est de la poésie. Hein, c'est un texte profondément poétique. D'ailleurs, il lui-même était fou de poésie. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire apprendre l'anglais aux enfants maternels. Très bien. Et on est incapable de consacrer une formation, si je puis dire, pour soi-même, quelques heures, parce que c'est quelques heures de travail. Et une fois qu'on est rentré dans Montaigne, on y baigne. Je parle dans le texte originel, hein. On y baigne. C'est pas à ce point difficile.
Moi, je pense qu'il n'y a rien de dégradant à lire Montaigne dans une version modernisée chez Arléa, par exemple. Et il y en a eu
pardon. Chez Arléa, c'est le texte d'origine, simplement, il est modernisé sur le plan de l'orthographe. Et c'est une très bonne édition pour ça, justement.
Brice Couturier.
Et le grand intérêt littéraire de Montaigne, moi aussi je suis fasciné par la matérialité de sa langue, c'est que la langue française à l'époque n'est pas encore définitive, elle n'est pas stabilisée. Donc elle permet des extravagances que nous interdirions aujourd'hui en tant que philosophe. Mais je voudrais revenir à la question que pose Guillaume Herner depuis le début de cette émission, et vous la posez très concrètement. Aujourd'hui, nous sommes opposés, nous sommes confrontés à une vague de terreur influencés par des idéologies religieuses, enfin des religions transformées en idéologies. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour y faire face? Est-ce que c'est la leçon de Kant? Cherchons des valeurs universelles qui nous rassemblent tous, que nous pourrions partager avec tous, parce que ce serait quelque part le plus petit dénominateur commun de toutes les morales qui se confrontent, ou faut-il plutôt chercher nos solutions du côté du relativisme en nous disant, après tout, les croyances de chaque peuple sont liées à son histoire propre, il faut les respecter en tant que telles et essayer autant que possible qu'elles ne débouchent pas sur l'usage de la violence et de la terreur. Quelle est la solution que vous préconisez très concrètement aujourd'hui?
André Comte-Sponville.
Ce n'est ni l'une ni l'autre, parce qu'il me semble que vous déformez le message de Montaigne. Respecter la culture des autres, ça ne veut pas dire approuver tout ce qui s'y dit. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ça ne veut pas dire que toutes les cultures se valent. Une civilisation esclavagiste vaut moins pour moi qu'une civilisation qui respecte l'égale dignité de tout être humain.
Ah bah Montaigne, c'est comme l'éloge du cannibalisme.
Une civilisation machiste vaut moins qu'une civilisation humaniste et féministe. Et Montaigne en serait d'accord. Autrement dit, ne pas ériger son propre point de vue en absolu, ne pas se prendre pour le bon Dieu, ça ne veut pas dire baisser les bras devant le pire. Vous savez, Montaigne écrit dans les essais, nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, comme l'a écrit mon vieux maître ami Marcel Conche, que Montaigne étant incontestablement périgourdin est tout aussi incontestablement chrétien. Sauf que, s'il dit je suis chrétien parce que je suis périgourdin, c'est qu'il reconnaît la relativité de sa croyance. Si les Marocains, les Iraniens, que sais-je, reconnaissaient qu'ils sont musulmans parce qu'ils sont Marocains ou Iraniens, qu'ils sont nés en milieu musulman, on n'est plus dans le dogmatisme, on n'est plus dans le fanatisme. Ça ne veut pas dire que tout se vaut. Attention de ne pas glisser du relativisme montagnien au nihilisme. Si Montaigne s'est battu justement contre les conquistadors, contre les massacres des Indiens d'Amérique, c'est justement qu'il avait le sentiment que tout ne se vaut pas. Simplement, ce sentiment, c'était le sentiment de Michel de Montaigne. Osons assumer nos jugements de valeur, arrêtons de nous prendre pour le bon Dieu, ce qui est justement l'erreur que font les fanatiques.
Mais justement, là, vous êtes en train de nous expliquer que Montaigne est un bon éducateur contre le fanatisme parce qu'il est relativiste et que finalement, son relativisme est une forme de réponse supérieure à l'absolutisme par rapport
Exactement,
aux différentes
radicalités. C'est ma position, je suis relativiste, je me bats à la fois contre l'absolutisme et contre le nihilisme. Et cette ligne de crête, qui est difficile à penser, mais je m'en explique longuement dans mon livre, me paraît la seule qui permette justement de mener le combat aujourd'hui contre le fanatisme.
Mais alors, si vous êtes relativiste, vous respectez toutes les cultures et vous les pensez toutes égales.
Mais non,
qu'est-ce qui vous permet de condamner les 1000 coups de fouet infligés à un jeune saoudien parce qu'il a dit que Dieu n'existe pas?
Justement, les valeurs qui sont les mêmes. Il y a un article dans le livre, un chapitre sur les civilisations. Et je montre justement que ce cliché politiquement correct qui voudrait nous faire croire que toutes les civilisations se valent, sont égales, est une absurdité. Simplement, je n'ai pas besoin d'ériger dans l'absolu le point de vue qui est le mien. Mais je continue évidemment à penser qu'une civilisation laïque est supérieure en fait et en valeur à une civilisation intégriste ou fanatique, qu'une civilisation démocratique est supérieure en fait et en valeur à une civilisation totalitaire ou tyrannique, qu'une civilisation féministe, humaniste, donc féministe, est supérieure en fait et en valeur à une civilisation machiste et humaniste. Autrement dit, je refuse le tout se vaut, je refuse le nihilisme, c'est au nom de ces valeurs qui sont les nôtres que je me bats, mais attention, ces valeurs qui ne sont pas le propre de l'Occident, qui ont vocation à devenir de plus en plus...
Ça y ressemble quand même, puisque laïcité...
Oui, mais qui ont tendance à devenir de plus en plus ce que Gorbatchev appelait les valeurs communes de l'humanité. Regardez
le printemps arabe. Mais ça, est-ce qu'on appelle pas ça de l'impérialisme ?
Qu'est-ce qui donne tort aux absolutistes ?
André Comte-Sponville, est-ce que ça n'est pas une forme d'impérialisme que de dire que...
Non, parce que justement, ce qui donne tort aux absolutistes d'Occident comme d'Orient, c'est ce fait incontestable qu'il existe des démocrates musulmans et des fascistes judéo-chrétiens. Je pense ne pas vous surprendre si je vous dis que pour ma part, je suis évidemment beaucoup plus proche d'un démocrate musulman que d'un fasciste judéo-chrétien. Pas du tout parce que toutes les cultures se vaudraient, mais parce qu'une culture démocratique vaut mieux qu'une culture fascisante.
Jean-Michel de la Comté.
Si on prend le point de vue de Montaigne, comme il raisonne, lui, Montaigne c'est l'homme du corps et c'est l'homme du lieu. On ne peut pas dissocier les deux. Autrement dit, vous avez raison de noter, s'il est périgourdin et chrétien, il défendra cette appartenance, je dirais. Ce faisant, il n'ignore pas que d'autres pensent comme lui. Mais lui, il le dit sans arrêt, c'est l'homme des coutumes. Où je suis, je pense. Où je pense, je suis. Je suis ce que je suis, dans le sens où je suis le tributaire du lieu et... de mes ancêtres. Non, mais c'est très important. Et ensuite, j'ajoute simplement, compte tenu de cela, ensuite, on vise au compromis. Mais bien sûr qu'il a des convictions pour lui-même, sachant c'est relatif, mais c'est son corps et c'est sa vie.
Alors Montaigne n'est pas seulement relativiste, il a une arme contre le fanatisme qui est une forme de conservatisme, ce qui peut paraître étonnant. Il écrit notamment « Les lois m'ont ôté de grandes peines, elles m'ont choisi parti et donné un maître. Toute autre supériorité et obligation doit être relative à celle-là et retranchée », Jean-Michel Delacôté.
Mais oui, bien sûr, il est... Attendez, c'est l'homme de la fidélité. Et moi, je me sens, par exemple, en tant que...
C'est pas seulement ça, c'est aussi une forme de conservatisme.
Mais bien sûr. Mais
c'est pour avoir la paix, surtout, non? C'est pour avoir la paix avec les autorités
seulement.
De son temps.
C'est une stratégie d'écriture?
Oui. Non, pas seulement.
Si, moi, je le prends comme ça.
Je crois que Montaigne était conservateur, en effet, par dégoût de ce qu'il voyait autour de lui. Autrement dit, la réforme protestante qui a été le grand changement de l'époque, il constate que ça fait des milliers de morts. Et donc, il se dit, tant que la situation est supportable, c'est peut-être pas la peine de la changer. Alors, c'est pas ma position, mais c'est celle de Montaigne, qui relève plutôt de sa position politique que de son travail philosophique, là encore. Mais, en même temps, ce conservatisme n'est pas l'immobilier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense le devenir tout cool. Au fond, il est héraclitéen à sa façon. Mais simplement, dans l'universel changement, il ne sent pas l'obligation de bouleverser la société parce qu'il a vécu de son temps les risques que ça entraînait. Alors, ça n'est pas là pour le coup ma position, c'est celle de Montaigne. Mais ça confirme encore une fois, n'enfermons pas un auteur dans ses positions politiques. Ce qui est le plus intéressant dans le décès de Montaigne, ce n'est évidemment pas son conservatisme.
Brice Couturier.
Non, j'ai toujours le sentiment que ce que veut dire Montaigne en réalité, c'est que puisque les coutumes, les lois, les normes en vigueur sont relatives à la société dans laquelle on vit, eh bien, il faut les supporter, il faut les tolérer pour simplement avoir la paix et pouvoir continuer à travailler dans sa bibliothèque sur les auteurs anciens. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit vrai. Moi, je le considère pas comme un conservateur. Non, comme un stoïcien, comme quelqu'un qui se réfugie dans la pensée, mais qui fait les actes de l'obéissance. Qui montre son obéissance aux lois en vigueur, mais qui ne les respecte pas plus que cela.
Un mot de conclusion, Jean-Michel Delacôté.
Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a, bien sûr, il y a le désir de paix, il y a l'horreur de la cruauté, l'horreur de la violence. Mais moi, je me sens fondé à insister sur le fait qu'il y a le principe d'une fidélité aux pères, aux ancêtres, au pays dans lequel on est. Si on ne comprend pas ça, à mon avis, on ne comprend rien aux attachements.
Fidélité et André liberté. Montaigne écrit dans l'essai « Quand je salue le roi, ce sont mes genoux qui se plient, pas mon esprit. » Eh bien voilà, saluer poliment le roi, parce qu'on respecte la coutume, on respecte la tradition, mais garder son esprit libre, ça c'est l'esprit au fond de la laïcité, c'est l'esprit de la philosophie de Montaigne.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Adieu Montaigne, Jean-Michel Delacôté, aux éditions Fayard. Ces choses tendres que la vie, André Comte-Sponville, aux éditions Albin Michel. Et le plaisir de penser du même André Comte-Sponville à la librairie Vuibert. On va écouter Moonstruck de Sinn Kein. Et tout de suite après, on retrouve la revue des matins. Nicolas Martin, Mathieu Conquet, Hélène Delis se mettent en place. Ils vont vous donner leur choix et leur manière de voir dans quelques instants.